Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps. Nous allons remonter aux sources de l'aide publique au développement. Il m'a semblé intéressant de faire ce trajet dans la mesure où cette aide fait souvent débat. Certains en critiquent l'intérêt, en contestent l'efficacité. D'autres regrettent au contraire qu'elle ne soit pas assez importante. Mais les gouvernements qui en bénéficient l'attendent souvent, cette aide publique au développement, pour boucler leur budget. En faire l'histoire vous permettra peut-être de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette question, et nous ferons ce périple grâce à deux experts en la matière, un historien et un économiste. L'historien, c'est vous, François Pacman, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
François Pacman, vous êtes l'historien de l'Agence française de développement. Vous y êtes officiellement chargé de mission histoire et réflexion stratégique. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à cette grande maison. Par exemple, une histoire de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire, ce qui est publié aux éditions Cartala, ou toujours chez Cartala, un livre intitulé « Dans les laboratoires du développement ». Quant à l'économiste, c'est vous, Gervasio Semedo, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre, Boris.
Gervasio Semedo, vous êtes maître de conférence à l'université François Rabelais de Tours, dans le centre de la France. Vous y enseignez au sein du programme interafricain. Vous travaillez en ce moment sur la question des remittances, les virements des migrants et l'accès aux services financiers en Afrique. Vous êtes également président de l'association pour l'intégration africaine. Alors, au cours de cette émission, outre ces deux invités, vous entendrez de nombreux sons d'archives qui ont été collectés au fil des années par la Sonothèque de RFI et aussi un peu par l'Institut National de l'Audiovisuel. Alors nous n'allons pas seulement parler de la relation entre la France et l'Afrique, mais la France, par son passé colonial, occupe une place singulière dans cette histoire de l'aide publique au développement. J'en veux pour preuve ce premier document sonore. Nous sommes à Brazzaville, le 30 janvier 1944. Un homme se lève pour prendre la parole. Ce n'est pas encore le libérateur de la France, mais il s'appelle déjà Charles de Gaulle, et voilà ce qu'il dit.
Depuis un demi-siècle, à l'appel d'une vocation civilisatrice, vieille de beaucoup de centaines d'années, sous l'impulsion des gouvernements de la République et sous la conduite d'hommes tels que Gallieni, Savorgnan de Brazza, Dot, Joffre, Binger, Marchand, Fourreau, Lamy, Bornis Desbordes, Biotet, Gouraud, Mangin, Largeot, les Français ont pénétré, pacifié, ouvert au monde une grande partie de cette Afrique noire, que son étendue, la puissance des obstacles naturels, les rigueurs du climat, la misère et la diversité de ses populations, avaient maintenu depuis l'aurore de l'histoire, douloureuse et imperméable. Ce que nous avons fait pour le développement des richesses et pour le bien des hommes, ici, tout en marchant, il n'est, pour le discerner, que de parcourir nos territoires, et pour le reconnaître, que d'avoir du cœur.
Charles de Gaulle, le 30 janvier 1944, à Brazzaville, dans ce qu'on appelle le discours de Brazzaville, qui est un document historique, qui faisait l'apologie de la politique coloniale de la France, qui avait développé, disait-il, et pacifié ces régions africaines, et puis aussi, bien sûr, l'Asie. On va pas faire une émission sur la politique coloniale de la France, ça pourrait être une autre émission, mais est-ce que dans ce discours, il y a les bases de ce qui sera plus tard, François Pacman, la politique française d'aide au développement ?
Tout à fait. L'extrait qu'on a entendu montre bien l'ambiguïté de ce discours, parce qu'effectivement, c'est un extrait qui met l'accent sur les aspects rétrospectifs. En réalité, ce discours, ensuite, articule deux principes. Le premier, c'est un principe de reconnaissance de l'effort des troupes coloniales dans la libération de la France. Et le deuxième principe, c'est que désormais, dans les investissements qui devront être faits pour reconstruire et développer la France, il faudra prévoir une part pour ménager de l'espace pour la prospérité des populations africaines et des pays qui ont contribué à cette libération.
Quel est le regard que les dirigeants français dans les années 40 portaient sur l'économie des colonies françaises en Afrique ou en Asie, Gervasio Semedo ?
À mon avis, dans les années 40, avec la guerre, une expérience nouvelle se dessine, puisque les Africains et les Asiatiques ont pris part à la résistance. Et ils ont été après reconnus comme tels par certains Français qui se sont dit, après tout, ce sont des frères d'armes, et qu'en l'occurrence, il fallait peut-être trouver des formes de solidarité avec ces pays, plus de santé, plus d'éducation. N'en demeure pas moins que dans l'imagerie politique, ce qui comptait, c'était la continuité de la France et développer des territoires en fonction également du besoin que la France, à la sortie de la guerre, puisse avoir sa place encore dans le concert des puissances occidentales.
François Paquement, il fallait développer ces régions uniquement en fonction des intérêts de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Hexagone, de la métropole.
Je pense qu'il y a une approche qui est différente et une inflexion qui est donnée à partir de ce discours jusqu'en 1944. Le financement de la mise en valeur coloniale procédait par des prêts. Et désormais, il y aura de nouveaux instruments et en particulier des subventions d'un fonds qu'on va créer en 1946 qui s'appelle le FIDES. Et il y aura deuxièmement un changement d'échelle.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les financements qui seront consentis en faveur des colonies à partir de la fin de la guerre seront beaucoup plus importants qu'ils n'ont été par le passé, et souvent donc à des conditions bien plus favorables.
Mais est-ce que ça veut dire que l'Afrique, pour ne parler que d'elle, s'est plus développée, entre guillemets, après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à ses investissements, qu'avant ? Gervasio Semedo ?
Il y avait quand même une crainte qu'après la guerre, qu'il y ait des velléités d'indépendance très rapides. Donc, il fallait montrer aussi aux Africains que la France était en mesure de tenir compte de leurs intérêts stratégiques et de dire, en fait, que la République a un sens beaucoup plus large et que c'était créer de la complémentarité et des synergies pour développer à la fois le capital social, l'éducation, la santé. N'en demeure pas moins que, bien sûr, il y avait un regard critique parce que, par ailleurs, dans le monde anglophone, il y avait beaucoup de révoltes. Au Kenya, en Ouganda, etc. Je pense que les autorités françaises à l'époque avaient appris quand même.
Alors justement, velléité d'indépendance, on y est. En 1961, on est en pleine période de décolonisation, en pleine guerre d'Algérie. Le 30 septembre de cette année 1961, le journal Parler de 7h15, Interactualité, démarre sur une rencontre entre la France et le Niger.
Ce matin, avant d'aller à l'Elysée, M. Diori Amani recevra les journalistes au château de Champs. Il aura ainsi l'occasion de faire pour la presse le bilan d'un voyage fort important, puisqu'il engagera l'avenir des relations entre la France et le Niger. Hier, en effet, une véritable conférence a réuni à l'Elysée non seulement le général de Gaulle et M. Diori Amani, mais aussi plusieurs ministres nigériens et plusieurs ministres français, dont le premier ministre M. Debré. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'on a dû parler surtout du problème saharien et de l'assistance française au Niger, du problème de la scolarisation en particulier.
Et puis, mes confrères de l'époque enchaînent avec l'annonce de la création d'une nouvelle organisation.
Une nouvelle européenne, une naissance européenne, Jean Lacour, c'est celle de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique.
Oui, elle succède à l'OSCE qui était née le 16 avril 48. L'OSCE, c'était l'Organisation européenne de coopération économique. Et la différence des noms montre que la nouvelle organisation sera moins axée sur l'Europe que sur le développement. L'OCDE, en effet, va grouper 18 pays d'Europe, mais elle englobera aussi les États-Unis et le Canada. C'est donc là un élargissement du champ de la coopération. Son objectif principal sera en effet de venir en aide aux pays du tiers-monde.
C'est important dans l'histoire de l'aide publique au développement, l'apparition de l'OCDE, François Paquement ?
C'est très important parce que ça pérennise l'OECE, qui était une institution mise en place dans le cadre du plan Marshall. L'idée, c'est que, avec l'aide américaine, il devait y avoir un effort de gouvernance. Cet effort de gouvernance, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, évidemment, pouvait se faire par des échanges sur les politiques publiques entre les pays bénéficiaires du plan Marshall. Et pérenniser cette méthode avec l'OCDE, en mettant le développement au centre, c'est un très bel héritage, en effet.
Gervasio Semedo, l'OCDE, c'est important ?
C'est important parce que, comme vient de le dire mon collègue, le plan Marshall a consacré...
Le plan Marshall, qui était un plan mis sur pied par les Américains pour aider au relèvement des pays européens dévastés par la Deuxième Guerre mondiale.
A bien montré que l'aide bien utilisée, d'où l'idée de gouvernance qu'il venait d'émettre, peut servir à quelque chose. Et de ce point de vue, les Européens eux-mêmes avaient appris avec les Américains et les Japonais aussi avaient appris avec les Américains. Donc je veux dire par là aussi, c'était le prélude d'une chose assez contradictoire avec l'OCDE. Beaucoup de pays africains, à partir des années 60, adoptent des plans et reçoivent de l'aide de pays qui se réclament du camp libéral, économie de marché. Et on voyait bien qu'il n'y a pas d'incompatibilité, a priori, à cette époque-là, entre le choix de plan et l'articulation avec des économies de marché.
Mais est-ce que ça veut dire que les pays européens se réclament du plan Marshall et de cette politique d'aide à leur propre développement pour répliquer cette politique envers les pays africains ou asiatiques qui étaient leurs anciennes colonies déjà à l'époque?
Sur le plan conceptuel, il y a eu quelque chose d'intéressant. On commence à définir qu'est-ce que c'est que l'aide. Donc des transferts vers des pays supposés moins développés, et ces transferts ont ce qu'on appelle des éléments don ou de libéralité en termes de taux d'intérêt et de maturité. Et donc, à la fois, on demande à ces pays d'être plus responsables, hein, mais en même temps, il y a une visibilité, une articulation entre deux intérêts, les intérêts des pays du Nord et les intérêts des pays africains.
Alors Gervasio Semedo, vous y avez fait allusion à mi-mot. À l'époque, c'est aussi le début de la guerre froide entre le bloc soviétique d'un côté et les États-Unis et leurs pays alliés de l'autre. Est-ce que cela joue un rôle dans la volonté d'aider les pays pauvres à se développer?
Ah, tout à fait. Je crois que c'était un enjeu capital de montrer qu'il y avait des ressources disponibles et que, vous voyez, à cette époque-là, on ne pose pas de conditions. On donne sans condition. Et donc le niveau de l'aide dans les années 60, bien que faible en montant, mais en termes de croissance, c'est assez appréciable.
C'est-à-dire qu'il augmente régulièrement ce
Voilà, régulièrement, c'est des ressources qui arrivent d'appoint et les gouvernements en avaient besoin puisque c'est le début du développement et des plans ambitieux peut-être. Hein. Certains pays africains ont commencé à se dire « il nous faut plus de routes, plus de ceci ». C'est tout à fait compréhensible.
François Paquement.
Voilà. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de conditions au sens, par exemple, pas de conditions politiques. Mais il y a des processus et des processus très exigeants. Dans notre établissement, nous développons des méthodes d'instruction de projets qui sont des méthodes assez exigeantes, qui mobilisent du calcul économique et qui servent à mettre en place les diligences appropriées pour que les projets soient le plus efficaces possible. Deuxièmement, il y a des conditions qui sont des conditions qui ont beaucoup été critiquées, mais qui sont des conditions restrictives sur l'achat des biens et des services financés pour les projets de développement. C'est ce qu'on appelle l'aide liée. C'est-à-dire on fait de l'aide au développement parce que ça permet la promotion des exportations américaines, allemandes, britanniques ou françaises.
Alors, on parlait des soviétiques, du bloc soviétique. Est-ce qu'eux ont aussi une politique d'aide au développement?
Tout à fait. Du fait de cette guerre froide, à partir de 1954, en réponse aux initiatives qui se sont fait jour, notamment aux États-Unis et dans le système multilatéral, où ils ne sont que marginaux, les Soviétiques créent un système d'aide.
Gervasio Semedo, c'est une aide importante sur le plan économique?
Oui, il faut le prendre comme cela. C'est pas une aide en plus désintéressée, bien sûr. Et puis, ça s'appuie sur des projets sectoriels. Il y a certains secteurs qui sont privilégiés.
Par les Soviétiques?
Par les Soviétiques. Et en même temps, les Soviétiques veulent agrandir leur sphère d'influence, notamment quand on regarde des pays comme le Congo, hein, était un peu déstabilisé quand même. Je pense bien que c'était bien Marien Gwabi à l'époque. Il faut dire que c'est la concurrence politique, bloc contre bloc. Et de ce point de vue, les Soviétiques, quand ils ne pouvaient pas offrir directement des ressources monétaires et financières, mais offraient des armes, hein, puisque aussi c'était une période assez mouvementée sur le plan des indépendances.
Alors, continuons ce parcours historique. Les élites africaines, on est dans les années 70, ont un discours plutôt contrasté pour le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. L'aide est importante. Écoutez-le à l'occasion du sommet franco-africain de Dakar, le 21 avril 1977.
Il y a une certaine complémentarité dans tous les domaines entre l'Europe et l'Afrique. Nous pensons aussi, et le communiqué vient de le rappeler, que le seul combat que nous souhaitons sur notre continent, c'est le combat pour le développement dans la paix et la sécurité. Donc, compte tenu de cette complémentarité, je pense que les Européens ont compris la nécessité absolue de faire en sorte que notre développement se fasse dans un climat de sécurité totale. Nous ne sommes opposés à aucun bloc, mais nous sommes des réalistes. Nous disons que si l'Europe ne prend pas une conscience nette de nos réalités, si l'Europe ne nous aide pas sur le plan économique à développer nos pays, si l'Europe ne comprend pas la nécessité de la sécurité en Afrique, nous risquons, par les subversions et aujourd'hui même par des agressions, nous risquons de voir l'Afrique s'engager dans une voie semblable à celle qu'ont connue d'autres continents.
Mais la même année, il s'exprime le 11 octobre 1977, l'opposant sénégalais d'alors, Maître Abdoulaye Wade, a une opinion un peu divergente.
Nous sommes d'une manière générale contre l'aide étrangère. Cela veut dire que nous ne sommes pas pour qu'un gouvernement profite de n'importe quelle occasion pour s'adresser à l'aide étrangère. L'aide étrangère pour des écoles, l'aide étrangère pour des barrages, l'aide étrangère pour faire des usines, l'aide étrangère pour ceci ou cela. Nous considérons qu'on ne doit recourir à l'aide étrangère que si réellement on ne peut pas résoudre le problème avec les moyens dont on dispose sur le plan national.
Alors François Paquement, deux points de vue qui remontent aux années 70, deux points de vue apparemment contradictoires. Quelle est l'attitude des pays africains vis-à-vis de cette aide publique au développement? Est-ce qu'ils en sont demandeurs? Est-ce qu'ils en sont friands? Ou est-ce qu'au contraire, ils la reçoivent de manière hésitante?
Je pense que le discours de Félix Houphouët-Boigny intervient dans le contexte d'une renégociation de l'accord ACP Communautés européennes. C'est un an avant un accord qui doit intervenir donc en
78.
Donc je pense que dans cet esprit, il veut mobiliser les Européens pour qu'ils mettent à la disposition des États africains une enveloppe plus ambitieuse. Et donc ça me paraît tactiquement intéressant et bien formulé de montrer que les Africains se sentent libres de leurs alliances et que le réalisme des Européens devrait les conduire à investir davantage. À l'inverse, et vu par le bas, Wade a dit que ce n'est jamais un bon réflexe pour un gouvernement de se reposer sur les ressources extérieures pour le développement national. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux ne sont pas du tout inconciliables. C'est un gouvernement doit d'abord faire ses plans, ses projets de développement, et puis ensuite chercher les ressources.
Gervasio Semedo.
Bon, vous savez, Houphouët-Boigny était de la SFIO, donc socialiste, et pourtant Houphouët-Boigny a mis l'accent sur l'économie libérale. La Côte d'Ivoire a été la vitrine de l'économie libérale des années 70 des pays africains. Ça, c'est le premier point. Wade aussi est libéral. Et donc, on ne peut pas dissocier ces deux approches au fond. Pourquoi ? Développement, paix et sécurité, c'est d'actualité. On ne peut pas se développer sans stabilité politique. C'était une bonne chose. Et d'un autre côté aussi, je pense que quand Wade dit qu'il est contre l'aide étrangère, il n'était pas contre des programmes qui permettaient d'atténuer la baisse des recettes d'exportation liées aux matières premières et aux produits miniers. Mais par contre, quand il dit il ne faut pas tout le temps de l'aide, il veut dire même s'il y a de l'aide aussi, peut-être qu'il faut mieux utiliser cette aide-là. Et je pense que de ce point de vue, c'est quand même, du point de vue de la gouvernance économique, c'est quelque chose d'important.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous remontons, vous l'aurez compris, aux sources historiques de l'aide publique au développement. Nous continuons à le faire dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous tentons une histoire de l'aide publique au développement, une tentative ambitieuse, puisqu'il s'agit de résumer 70 ans d'histoire en une émission radio d'un peu moins d'une heure. Heureusement, dans ce studio, nous sommes avec François Paquement, chargé de mission histoire au sein de l'Agence française de développement, et Gervasio Semedo, maître de conférence en économie à l'Université François Rabelais de Tours. Au cours de la première partie de cette émission, de nombreux extraits sonores ont été diffusés, à commencer par le discours de Brazzaville du général de Gaulle le 30 janvier 1944. Nous avons aussi entendu l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny appeler à l'aide publique au développement. C'était en 1977. 33 ans séparent ces deux extraits sonores. Est-ce que, au cours de ces trois décennies, Gervasio Semedo, l'aide publique au développement a changé de nature et d'importance?
Effectivement, l'aide a changé de nature et d'importance sous les pressions des sociétés civiles à la fois européennes et africaines, et également du fait que l'Afrique a traversé une crise sans précédent. La période des années 80, je crois que les politiques d'ajustement structurel sont passées par là. Du coup, l'Europe elle-même révise sa position vis-à-vis de l'Afrique. Et l'aide n'est plus conçue uniquement sur le plan bilatéral, mais aussi sur le plan multilatéral.
Mais on voit ça déjà avec l'OCDE, n'est-ce pas?
Tout à fait.
François Paquement, entre 1944, fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et le début des années 80, est-ce qu'il y a un changement de nature et d'importance de cette aide?
Certainement, les indépendances jouent un rôle important, parce que les indépendances ouvrent la brèche pour la construction d'une véritable capacité de gestion dans les pays nouvellement indépendants. Ça fait que l'aide devient une relation vraiment bilatérale entre les donateurs d'un côté et les bénéficiaires de l'autre. C'est vrai que le système multilatéral se construit beaucoup dans cette période aussi, légitimant ainsi les aides bilatérales et les encadrant, notamment jouant un rôle de chef d'orchestre. Enfin, les montants, évidemment, se transforment.
C'est-à-dire ça monte beaucoup ?
C'est-à-dire ça monte effectivement, mais c'est peut-être dû au fait qu'on commence à mesurer l'aide au développement avec la création au sein de l'OCDE du comité d'aide au développement en 61.
Qui sert à quoi ?
Alors le comité d'aide au développement sert à comparer les politiques publiques des pays donateurs et à mesurer leur effort d'aide. Et c'est important en 61, parce qu'en 61, 85% de l'aide est consentie par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Donc il faut partager l'effort.
Et est-ce que ces trois pays ont la même vision de la politique d'aide au développement ou est-ce qu'ils ont des visions très différentes?
Ils interviennent sur des terrains différents. Et pour l'instant, les bailleurs de fonds bilatéraux ont chacun un peu leur chasse gardée. Et de ce fait, ils développent des visions qui correspondent aux problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain.
Gervasio Semedo, est-ce que vous, dans vos travaux, vous avez identifié des différences d'approche entre ces trois pays? Est-ce que britanniques, français, américains, les britanniques et les français ont des empires coloniaux que n'ont pas directement les américains?
La France défend ce qu'on peut appeler, entre guillemets, hein, on en parle tout le temps, le précaré. La Grande-Bretagne aussi est dans le Commonwealth, donc elle a une vision de sa colonisation. Mais il faut remarquer que la Grande-Bretagne, avec le système de line direct rule, ne s'immisçait pas directement dans les affaires purement de l'utilisation des canaux d'aide. Ce qu'elle réclamait en conditionnalité, c'est des mécanismes de marché. La France moins, parce que la France, elle parlait avec des hommes politiques, charismatiques ou non, ou des hommes politiques en place en fonction des intérêts stratégiques. Je pense qu'il y a une différence de nature. Et les Américains, c'était le monde libre, entre guillemets, contre le monde, le bloc communiste. Donc il ne fallait pas qu'il y ait une expansion du communisme en Afrique, etc.
En 1973, il y a ce qu'on appelle le choc pétrolier, l'explosion des prix du brut. C'est une date dans l'histoire économique du XXe siècle. Est-ce que cela a un effet sur les besoins de l'aide au développement ou sur une diminution de cette aide? Est-ce que ça change quelque chose?
Évidemment, ça change quelque chose. Mais en même temps, les pays occidentaux ne perdent pas de vue qu'il ne faut jamais quand même laisser de côté les pays qui ont de fortes dotations en ressources naturelles. C'est important dans la manière d'affecter l'aide.
Alors, on n'a pas beaucoup parlé, on l'a évoqué, du rôle de la grande puissance américaine dans l'aide publique au développement. En 1981, Claude Cheysson est commissaire européen chargé du développement. Le 18 février de cette année 1981, il est en visite à Bamako, au Mali, et voilà comment, un mois à peine après l'arrivée au pouvoir du président américain Ronald Reagan, il réagit à l'annonce de la réduction future par les Américains de leur aide au développement.
Il y a une proposition de la nouvelle administration américaine d'amputer un grand nombre de crédits budgétaires, dont l'aide au tiers-monde. D'amputer, pas de la couper complètement, mais de la diminuer. Deuxième série de remarques. Les pays européens sont indépendants. Nous sommes les amis, les alliés des Américains, mais c'est pas eux qui prennent les décisions pour nous. Je prends un exemple très clair et très récent. Les Américains, pour des raisons qui ne me sont pas encore totalement claires, se sont indignés que la communauté envisage d'augmenter son aide humanitaire en Amérique centrale. Nous avons écouté avec beaucoup d'amitié. Nous avons regardé les papiers qu'ils nous ont donnés, mais bien entendu, nous allons poursuivre cette aide humanitaire. Je me demande de quel droit un pays étranger viendrait nous dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Il en va de même sur l'ensemble de nos aides au tiers-monde. Ce ne sont pas les Américains qui en décideront, c'est nous. Troisièmement, est-ce que le fait que notre grand allié prenne une telle décision nous préoccupe ? Certainement.
Claude Cheysson, qui deviendra quelques semaines après cette déclaration ministre des Relations extérieures dans le premier gouvernement sous la présidence de François Mitterrand, élu à la présidence de la République française le 10 mai 81, déclaration donc au mois de février. Est-ce qu'il y a un conflit, Gervasio Semedo, à cette époque-là, entre les Européens et les Américains sur les avantages que leur donne l'aide au public au développement ? Comment expliquer cette déclaration ?
Les Américains, par exemple, avaient des difficultés quand même avec certains pays d'Amérique latine, qui ouvertement, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements ayant fait le choix d'options léninistes, marxistes, le
Nicaragua, sandiniste.
Oui. Donc, les Américains essayaient aussi de clairement exprimer qu'ils aideraient que leurs alliés ou ceux qui obéissent à leur politique stratégique. Je pense que Cheysson est socialiste et également en France, il y a une opinion quand même qui commence à faire jour, selon laquelle aussi, après tout, la pauvreté est due à des expériences entre guillemets impérialistes et qu'il faudrait peut-être aider les mouvements aussi de libération. Et donc, du coup, bien sûr, il faut se rappeler d'une chose, Reagan n'a pas apprécié quand même l'arrivée de socialistes au pouvoir en France. Je crois qu'il faudrait peut-être replacer ça dans le contexte, et je pense que là, c'était des passes d'armes un peu idéologiques pour dire « nous sommes bel et bien présents
voilà. ». François Paquement, il y avait une opposition dans les politiques d'aide publique au développement ?
En fait, il y a toujours une tension dans l'aide publique au développement, entre deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que pour obtenir une efficacité de l'aide, il faut qu'on adopte des démarches convergentes et donc qu'on s'accorde, d'où une forte pression par les pays donateurs et par les institutions multilatérales, cette pression collective des donateurs. Et d'autre part, il y a l'idée que l'aide au développement n'est pas uniquement une politique économique, hein, qui ressortit à des motivations économiques, mais que c'est une diplomatie d'amitié, et qu'à cet égard, les Européens sont libres de choisir leurs amis et de choisir leurs combats. Et ça, c'est très important de penser les deux à la fois.
Alors, quelques années plus tard, les Américains introduisent une nouvelle notion, en tout cas publiquement, dans leur aide au développement. Ils la lient à la démocratisation des pays susceptibles d'être aidés. Écoutez ce que disait sur RFI au micro de Carmen Bader, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Herman Cohen, c'était le 28 avril 1990.
On a toujours lié notre aide économique aux questions de droits de l'homme, bien sûr, parce qu'on a réduit notre aide à la Somalie, par exemple, récemment, et au Soudan, à cause des violations de droits de l'homme. Maintenant, on pense aux questions de démocratie. Et c'est pas tout de suite. Nous n'allons pas conditionner notre aide à la démocratie, mais c'est un mot d'alerte aux pays africains que les temps changent et dans l'approche à venir, c'est pas impossible que notre aide sera liée aux questions de démocratie. La plupart des pays ont eu des économies en faillite. Donc nous croyons que ce n'est que dans un vrai système démocratique qu'on peut trouver une solution au problème de modernisation.
Alors on continue ce parcours historique, on fait un saut, on passe du 20e au 21e siècle. On est avec le président Barack Obama qui estime que les pays africains doivent maintenant se sortir d'affaires par eux-mêmes.
Ce soir, je vous annonce des mesures qui vont porter notre commerce avec l'Afrique au plus haut niveau. Nous allons continuer à travailler au renouvellement de l'accord de libre-échange et l'améliorer. Les leaders du Congrès démocrate et républicain ont dit qu'ils voulaient avancer, donc je suis optimiste. Nous pouvons travailler avec le Congrès pour renouveler et moderniser l'AGOA avant son expiration, le renouveler sur le long terme. Nous devons le faire. Mais la clé pour débloquer la croissance africaine ne sera pas ici aux États-Unis, elle se trouve en Afrique. L'argent est une chose, le développement en est une autre. Mais l'état de droit, les réformes de réglementation, la bonne gouvernance, toutes ces choses sont encore plus importantes. Car les gens doivent pouvoir lancer une affaire ou exporter des produits sans avoir à donner un pot de vin ou engager le cousin d'un tel ou un tel. Pour finir, nous parlerons de paix et sécurité, car le futur appartient à ceux qui bâtissent, pas à ceux qui détruisent.
Alors, il y a une évolution, apparemment, Gervasio Semedo, entre ces deux déclarations, il y a une vingtaine d'années qui les séparent. Il y a vraiment une évolution dans la politique américaine.
Oui, il y a une évolution, mais en même temps, moi je pense que les pays occidentaux en général avancent en Afrique après les plans de stabilisation, mais sans visibilité réelle. Parce que les plans de stabilisation ont été un échec. Il y a eu de la dévaluation du CFA et on ne peut pas délier l'aide aussi des problèmes d'endettement de ces pays. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, on arrive après, tout simplement, au problème de l'aide liée à la démocratie, aux droits de l'homme, etc. C'est le deuxième volet des politiques d'ajustement structurel. Il faut plus de gouvernance politique, etc. Tout à fait acceptable. Mais progressivement, tous les 5 ans en moyenne, on revoit la manière de concevoir la politique avec l'Afrique. Donc, c'est comme une valse avec beaucoup d'hésitation. On ne sait pas exactement où on va. Et peut-être que aujourd'hui, bon, les problèmes de sécurité sont importants. Obama a très bien fait de le dire, mais si je dis quelque chose de paradoxal, que avant Obama, l'Afrique a été plus aidée par les Américains.
C'est-à-dire que l'aide américaine a baissé avec Obama.
Avec Obama, tout à fait. Donc, c'est assez paradoxal. Donc, évidemment, il a tout à fait raison de dire on doit se gouverner soi-même. Mais faut-il aussi que l'oiseau puisse prendre vraiment son envol? L'Afrique est en train de se restructurer. Je pense que depuis 1995, il y a eu de bons résultats en Afrique. Et sur des points clairs, sur les problèmes de sécurité, je crois qu'on ne peut pas laisser l'Afrique toute seule gérer ce problème. Et si les problèmes d'instabilité sont proches en Afrique, la France, par exemple, en pâtira d'une manière ou d'une autre. Parce que l'approvisionnement de la France en produits spécifiques, en matières premières, dépend de la stabilité politique en Afrique.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous faisons l'histoire de l'aide publique au développement avec deux invités, Gervasio Semedo, économiste, maître de conférence à l'université François Rabelais de Tours et François Paquement, chargé de mission histoire et réflexion stratégique au sein de l'Agence française de développement. François Paquement, on parlait des périodes d'ajustement structurel dans les années 80 liées au très fort endettement des pays africains. Est-ce que ça a marqué un tournant dans la perception que les pays européens avaient de leur nécessité d'aider ces pays africains, ou parce qu'on a l'impression d'une beaucoup plus grande dureté là à partir de ce moment-là, des années 80-90?
Tout à fait. En fait, les politiques d'ajustement structurel viennent compenser des déséquilibres de balance des paiements qui étaient apparus après le boom des matières premières des années 70. Il y avait eu, à la suite de ce boom, des politiques d'investissement et l'apparition d'un nouvel acteur dans le financement des pays en développement, qui est le secteur privé. Et ça s'est accompagné d'endettement non contrôlé. Les procédures que nous développons à l'Agence française de développement pour l'instruction des projets ne sont pas des procédures qui ont cours du côté des banques commerciales. Ce surendettement a conduit...
À l'époque.
À l'époque, tout à fait. Parce que maintenant, il y a évidemment des procédures sophistiquées de financement de projets privés, par exemple. Mais le surendettement suscité à cette époque par ces financements conduit effectivement à toute une série de mesures drastiques, de réduction du périmètre de l'État, de réduction de la dépense publique, d'ajustement des termes de l'échange. Et c'est une première action très importante qu'exerce la collectivité internationale à travers notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sur les pays en développement. C'est une mise au pas des États. Et donc quand arrive ensuite l'idée d'une conditionnalité politique, une grande partie du travail normatif sur les États a déjà été fait.
Gervasio Semedo, François Pacman parle de mise au pas des États par les bailleurs de fonds. Ça accompagne maintenant l'aide au développement ?
Tout à fait. Je pense que on ne peut pas les découpler. Et d'autre part, comme une partie de l'aide est d'origine privée, donc l'aide est quelque part liée aussi à la dette. Et donc les bailleurs de fonds exigent une rentabilité en contrepartie, même si on allonge les durées de maturité.
Alors les délais de maturité, c'est les délais de remboursement.
Les délais de remboursement. Et on diminue les taux d'intérêt. Et je pense qu'aussi, il faut très bien comprendre la partie de l'aide qui n'est pas soumise à des délais de maturité et à des taux d'intérêt est très faible.
Revenons sur ces périodes d'ajustement structurel avec un président africain, Omar Bongo. Lors du sommet du G7 de Lyon, le 30 juin 1996, Omar Bongo évoque cette situation, les ajustements structurels.
Je me félicite de la décision du G7 de poursuivre les efforts en vue de l'annulation surtout de la dette des pays qu'on appelle, je ne sais pas, à juste tort, juste ou à tort, les plus pauvres. Par ailleurs, la participation des responsables des quatre plus grandes institutions internationales financières chantant permettra de proposer, j'en suis sûr, prochainement, de modalités techniques, de règlements, la dette multilatérale.
Omar Bongo, lors du sommet du G7 de Lyon, le 30 juin 1996, est-ce que les pays africains ont profité de cette aide? Si on se place en 1996, est-ce que ça a aidé à leur développement, Gervasio Semedo?
En 1996, bien sûr, l'Afrique amorce une période de croissance au milieu des années 90, hein, 94, on voit 95, juste après la dévaluation, jusqu'en 2005. En même temps, des problèmes sont posés globalement. Tout d'abord, la communauté internationale et les Africains partagent ce point de vue. Il faut que les Africains eux-mêmes s'approprient les objectifs de l'aide. Et quand on parle qu'ils doivent s'approprier l'aide, ce n'est pas seulement par le canal des institutions publiques, puisqu'il y a des ONG qui émergent en Afrique, il y a la société civile qui émerge, et que ces parties-là ont peur du détournement du montant de l'aide, de la corruption, lorsqu'elle passe par des processus bureaucratiques. Donc, les pays européens commencent à être d'accord en se disant il faut que les pays bénéficiaires fixent les objectifs. Ils vont essayer entre eux de s'aligner, alignement des donateurs. Les donateurs se concertent de plus en plus par rapport aux objectifs demandés par les pays bénéficiaires. Il y a une harmonisation au niveau multilatéral et aussi on demande aux pays de bien gérer l'aide et on voit bien qu'on va après définir des objectifs pour cette gestion et on voit en filigrane apparaître les objectifs du millénium du développement, les 12 objectifs, de regarder comment on va utiliser l'aide avec plus de transparence. Donc, il y a l'idée aussi de responsabilité. L'aide demande une contrepartie. Ensuite, on accepte globalement qu'il faut alléger l'utilisation de l'aide. Et les acteurs qui gèrent l'aide. Et ça, c'est nouveau quand même. Il y a quand même des changements.
Qu'est-ce que vous appelez alléger l'utilisation de l'aide?
Alléger l'utilisation de l'aide, qu'il n'y ait pas que des processus bureaucratiques d'État à organismes multilatéraux, etc. On va essayer de trouver d'autres canaux indiqués. Bien sûr, il y a des conventions. Quand on arrive dans un pays, on essaie de voir quels sont les canaux les plus adéquats pour que l'aide puisse arriver aux bénéficiaires.
François Pacman?
En effet, après cette période assez autoritaire, on voit bien qu'il y a eu une décennie perdue pour le développement. On voit bien que le développement, c'est des processus beaucoup plus compliqués. Il y a le rapport Brundtland de 87 qui introduit le concept de développement durable. Il y a les rapports du PNUD sur le développement humain.
Le programme des Nations Unies pour le développement.
Ouais. Voilà, qui introduit ce concept de développement humain. Et on se rend compte que désormais, il faut penser de façon beaucoup plus complexe le rapport avec les États. Il n'y a pas seulement la conditionnalité politique, il y a des processus sociaux à prendre en compte. Et certainement, pour encourager ces processus sociaux, il faut rendre la main aux États, placer les États dans le siège du conducteur, disait le responsable européen de l'aide à l'époque. Et c'est un véritable enjeu. Et ce discours en 96 intervient juste au moment où la Banque mondiale fait une grande étude sur l'efficacité de l'aide. Et cette étude va montrer que l'aide est d'autant plus efficace qu'il y a en face des institutions pleinement responsables, capables de formuler des objectifs. De ce fait, en parallèle, pendant que Omar Bongo tient ce discours, les pays de l'OCDE sont en train effectivement de formuler la première version des objectifs du millénaire pour le développement.
Alors, parcourons quelques années. Le 29 mai 2004, le troisième sommet entre l'Union européenne et l'Amérique latine se tient à Guadalajara, au Mexique. L'occasion pour le président français Jacques Chirac de revenir sur une thématique qui, vous allez l'entendre, est toujours d'actualité aujourd'hui.
J'ai pris l'engagement que nous atteindrions 0,5 en 2007, et 0,7 le plus vite possible autour de 2010. Voilà nos engagements. Je m'efforcerai, en tous les cas, pour ce qui me concerne, de les tenir. Et c'est une des priorités qui ne sera pas touchée par nos restrictions, nos difficultés ou nos problèmes budgétaires. Notre détermination de ce point de vue est grande. Ceci étant, nous ne faisons aucune illusion, l'aide publique au développement, qui représente dans le monde environ 50 milliards de dollars par an, est très, très insuffisante pour atteindre les objectifs du millénaire, de faire baisser de moitié la pauvreté dans le monde en 2015. C'est la raison pour laquelle, convaincu qu'on ne le fera pas, et que la situation budgétaire des pays ne le permettra pas, j'ai indiqué qu'il était maintenant urgent de trouver d'autres sources de financement pour abonder l'aide publique au développement.
Alors c'est 0,7% en France, à tout le moins, on court après depuis bien longtemps, Gervasio Semedo, on n'y est toujours pas?
Oui, même le gouvernement Macron aujourd'hui a annoncé comme nouvel objectif 0,55%. Donc nous courons toujours derrière, mais il y a certains pays scandinaves où je pense la Grande-Bretagne, si je ne m'abuse, hein, qui ont atteint ces objectifs. Hein. Donc, bien sûr...
Mais pour, François Pacman, quelle est l'histoire de ces 0,7%? Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté, fixé sur ce chiffre?
C'est une histoire complexe. Ça vient peut-être du fait que le plan Marshall et qu'on avait cette indication de montant. C'était 2% à l'époque à transférer. Ça a été repris en 1960 par la Confédération mondiale des églises. Et toutes les années 60 ont été consacrées par l'OCDE et la Banque mondiale à essayer d'affiner cet objectif. C'est à l'origine du 0,7% qui a été adopté en 71. En réalité, est-ce que ça fait du sens au plan économique? Pas vraiment, parce que c'est pas tant le manque de financement le problème, c'est la qualité des financements. Et dans l'aide française, nous avons fait des progrès importants en termes de réorganisation et aussi en termes d'élévation du niveau d'exigence pour les processus internes.
Gervasio Semedo, je disais en introduisant l'émission que vous travailliez sur la question des remittances, des virements des migrants. Ces virements aujourd'hui sont beaucoup plus importants que l'aide publique au développement en montant. Est-ce qu'ils sont plus importants que l'aide publique au développement pour le développement des pays africains, par exemple?
Ah, pour certains pays.
Rapprochez-vous du micro.
Pour certains pays, les remittances ont atteint des proportions incroyables et qui constituent quelquefois une bonne partie de leur PIB même. Et donc ça montre que il y a un nouvel esprit de l'aide, c'est vrai. L'aide est plus assortie à des conditions financières de marché. De ce point de vue, je suis d'accord hein, avec ce que dit mon collègue
François Pacman.
Et il faut bien que aussi que la qualité hein, de l'aide soit importante, qu'on apprenne en Afrique, par exemple, à mieux gérer les ressources. Parce que le paradoxe, c'est ceci : l'Afrique est surliquide.
C'est-à-dire ?
L'Afrique est surliquide, c'est que quand on regarde de près, il y a plus de capitaux qui quittent l'Afrique que de capitaux qui n'entrent en Afrique. Voilà le paradoxe de l'Afrique, c'est ça la cerise sur le gâteau. On demande de l'aide alors que des capitaux privés, par an, pas seulement des trafics illicites, mais c'est des sorties de capitaux, sont plus nettement plus importants que l'aide, etc. Mais le problème de l'aide, c'est la décentralisation de la gestion de l'aide qui est la plus importante, que ceux qui sont concernés par cette aide-là reçoivent directement l'aide d'une manière ou d'une autre, qu'on trouve des stratégies de leur acheminer l'aide et que, au moins, qu'il y ait des contraintes, c'est pas très grave. La contrainte permet juste de mieux gérer, d'apprendre sur le long terme que les ressources sont rares et qu'il convient de gérer les ressources, quoi qu'il en soit. Mais l'Afrique, en tout cas, à des excédents de capitaux. Voilà le paradoxe que nous vivons en Afrique.
François Paquement, d'accord sur ce paradoxe, ce sera le mot de la fin ?
Certainement, il faut développer une vision globale de l'ensemble des flux financiers entre les pays en développement et les pays qui les financent, qui sont parfois des pays en développement. Et il importe également d'améliorer l'efficacité des processus financiers au niveau local. Donc il y a tout un défi, et depuis 2015, il y a une feuille de route pour la collectivité internationale qui est une grande source d'inspiration à l'Agence française de développement. C'est Addis Abeba pour la vision d'une sorte de système de finances publiques mondiales en faveur de objectifs de développement durable définis en septembre. Et au premier rang desquels, on a mis en exergue un défi spécifique qui est celui du climat. C'est-à-dire tout ça doit se faire en respectant l'environnement et avec le moins d'émissions possible.
Merci François Paquement, merci Gervasio Semedo d'avoir accepté l'invitation de RFI pour cette émission sur l'histoire de l'aide publique au développement qui est maintenant terminée. Merci à Françoise Delignon et Laurence Arniguet de la Sonothèque de RFI. Pour nous réécouter, vous pouvez nous podcaster sur l'application Pure Radio et sur notre site internet www.rfi.fr dans la rubrique émissions, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.